À tous. Merci Jean-Pierre et les musiciens qui nous ont conduits à la louange pour sa rencontre. J'ai imaginé en chantant, en participant dans cette première partie du culte, si Dieu était présent. Et j'étais sûr qu'il était présent avec nous. S'il était présent, ou même assis là sur cette table, en train de nous regarder et recevoir sa louange, c'est génial, n'est-ce pas? Et je pense que vraiment, il est encore présent ce matin pour nous parler, pour ouvrir notre cœur, notre entendement, mais aussi pour nous conduire vers une sanctification. Voilà. Merci aussi pour Jean-Pierre pour cette première partie où tu nous as beaucoup parlé sur l'amour du prochain. C'est vrai que c'est important d'avoir d'aimer les uns les autres et aussi, bien sûr, en pardonnant les uns les autres. C'est un peu dans la continuité que j'ai choisi. On n'était pas concerté, mais voilà. J'ai choisi un peu alors, tout d'abord, j'aimerais commencer. Est-ce que vous avez bien repris vos études, si vous êtes étudiant ou voilà, oui, d'accord. Je vois. C'était la rentrée. J'espère que la première semaine s'est bien passée. Même pour ceux qui ont aussi repris le travail, je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi qui ont repris le travail après les grandes vacances. Mais ce matin, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur le travail et la vie spirituelle. Est-ce qu'on peut vraiment les séparer les deux? Souvent, on les sépare, même en tant que chrétien, on a tendance à les séparer les deux. Mais vous savez que, en se disant que, voilà, ma vie spirituelle, c'est quoi? Je lis la Bible, comme aujourd'hui, je suis venu à l'église pour entendre sa voix. Je prie aussi, je fais de bonnes choses pour les autres, ça c'est ma vie spirituelle. Et puis, de l'autre côté, ma vie séculière, c'est quoi? C'est mon travail, ma carrière, mes études, mes décisions professionnelles, mes finances, peut-être mon plan de retraite aussi, n'est-ce pas? Non, c'est faux. Toute la vie est spirituelle, toute la vie est spirituelle. Le terme séculier ne figure pas dans la Bible. Tout est important pour Dieu. Je dirais même, Dieu s'intéresse peut-être plus à votre travail, dans vos lieux de travail, dans votre famille, parce que vous passez plus de temps à travailler, à étudier, qu'à prier. Et Dieu, vraiment, aimerait que nous soyons, là où Dieu nous a placés, que nous soyons des lumières et de sel. Nous sommes avant tout des chrétiens, avant tout des chrétiens. Et nous espérons en tout cas rendre gloire à Dieu à travers notre travail. Et mais c'est vrai qu'il faut dire que ce n'est pas si simple parce que le monde est entaché par le péché et qu'il y a des difficultés en tout cas à montrer notre témoignage. Alors comment témoigner dans cette condition? En tout cas la Bible nous dit de mettre un parfum de bonne odeur. Vous savez quand les gens passent à la boulangerie, ou devant la boulangerie, ils sentent une bonne odeur du pain chaud, et ils ont envie de l'acheter. De même, ceux qui vont nous croiser, j'espère vraiment que ces gens-là puissent sentir, à travers nos actions, à travers notre vie, cette bonne odeur que nous dégageons, cette bonne odeur du chrétien, en transmettant l'amour du Christ, l'amour du prochain. J'aimerais juste vous lire dans Matthieu 5, 13, à propos du sel et de la lumière. Le sel, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà, que nous puissions vraiment assumer ce rôle de lumière et de sel. J'espère que vous avez fait pas mal de rencontres, bonnes rencontres en tout cas, cette semaine, avec votre rentrée, et que Dieu aussi nous attend que nous montrions notre rôle de lumière et de sel. Et voilà donc quelques pistes, c'est quoi être des vrais témoins dans le monde? C'est pas seulement prêcher l'évangile, c'est pas juste parler de Dieu. Non, d'abord, réfléchissons un peu. Dans Colossiens, il est dit que serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Quand nous avons des tâches à accomplir, du travail, des études à faire, nous devons le faire avec fidélité, bien sûr, comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, dans Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Tout ce que nous devons faire, c'est comme si on le faisait pour le Seigneur. Que ce soit votre travail, que ce soit vos études, que ce soit vos relations avec les amis, les proches, ou même des amis éloignés, qu'on le fasse avec fidélité, comme pour le Seigneur. Ainsi, j'espère vraiment que nous puissions recevoir cette parole du Seigneur, son maître qui dit « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Peut-être encore une autre piste pour être des vrais, un bon témoin. Non seulement il faut travailler, bien sûr, être fidèle comme pour le Seigneur, mais il faut être aussi dans la vérité, dans la vérité. Dans Proverbes 12, 19, il est dit « La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. » 22, « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Que nous puissions vraiment aussi transmettre cette vérité, être vraiment vrai, être en vrai, devant les autres, pour qu'ils voient la différence. Parce que c'est vrai que dans le monde, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup je ne me rappelle plus le mot. Comment ? Non. Mais c'est pas grave. En tout cas, il faut être vrai, transmettre la vérité dans ce monde où justement il y a beaucoup de mensonges et de perversité. Et puis peut-être encore un autre point, une autre piste pour qu'on puisse être des vrais témoins, c'est bien sûr l'humilité. Et je vais un peu m'attarder là-dessus dans Philippiens chapitre 2 versets 3 et 4 où il est dit ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je répète encore, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. On a tendance à regarder les autres au-dessous de nous-mêmes, parce qu'il y a notre ego. Parce qu'on aime bien aussi recevoir pas mal d'éloges, de respect, etc. Donc, on aimerait être un petit peu supérieur ou au-dessus des autres. Mais le Seigneur dit, il faudrait justement regarder les autres étant au-dessus de vous-même. Il faut disparaître ce « haut », c'est-à-dire au-dessous ou au-dessus. Hein. Au-dessous, il y a un « haut » en plus. Au-dessus, il y a un « haut » qui est en moins. Il faut faire disparaître ce « haut » pour que nous puissions avoir, en tout cas, une considération, un respect réel vis-à-vis des autres. Alors, qu'est-ce que c'est de regarder les autres au-dessus de nous-mêmes? Est-ce que c'est de rechercher peut-être des qualités chez les autres? Oui, on pourrait trouver des qualités. Regardez, ce matin, on a vu des musiciens qui ont un talent incroyable, qui nous ont conduits à la louange. Pour certains, voilà, on n'a pas ce genre de don. On n'a pas ce genre de don comme Zach qui a été magnifique avec son piano, avec Jean-Jacques qui a un don magnifique pour un don de communication. Voilà, il y a d'autres personnes qui ont des dons. Je sais pas. Il y a certaines personnes qui sont plus intelligentes, plus beaux, plus belles, plus manuelles parfois. Hein. Il y a des gens qui sont très doués. Regardez la peinture, c'est Xinjiang. De notre peintre qui a fait ça. Vous voyez un peu tout ce qui est... Voilà. Il y a des gens qui ont un don particulier, qui apportent leur contribution pour l'avancement de la société et même de l'Église aussi. Est-ce que c'est ça qu'il faut rechercher et les considérer comme au-dessus de nous-mêmes? Est-ce qu'il faut vraiment penser que voilà, les gens sont plus compétents que moi? Je ne pense pas que ce soit le but de ce verset-là. Mais avant de continuer pour aller un peu plus loin, tout d'abord, j'aimerais vraiment nous inviter à regarder qui nous sommes vraiment, qui nous sommes. Et sur ce, j'aimerais vous inviter aussi à lire dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 12, où Paul, qui a écrit tellement de livres du Nouveau Testament, un tiers même de ce Nouveau Testament, et que lui, qui a reçu une grande révélation de la part de Dieu, lui, il dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, pas dans l'incrédulité. » Voilà, donc il dit que... il a reçu cette miséricorde. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Voilà, Dieu l'a jugé fidèle, alors qu'il ne l'était pas encore, et que tout ça par sa miséricorde, par sa grâce. Oui, il dit que je n'étais rien, même encore plus. Il était persécuteur de l'Église, il était un homme violent, un homme blasphémateur, qui était contre Dieu. Mais voilà, par la grâce de Dieu, il est devenu ce qu'il est, par la grâce de Dieu. Et là, il voit ce qu'il était, c'est-à-dire un être qui ne vaut rien sans Dieu. Sans Dieu, il était rien. De même, c'est vrai, il faudrait comprendre que qui nous sommes rien sans Dieu. Et même l'autre aussi qui est devant moi, mon prochain qui est devant moi, il n'est rien sans Dieu aussi. Ainsi, peut-être en analysant ou peut-être en sachant nos identités, on pourrait considérer l'autre aussi important que moi-même. Hein? Aussi important que moi-même. Là, on apprend en tout cas à le considérer, mon prochain, au moins à mon égal. N'est-ce pas? C'est déjà une bonne chose de ne pas le mépriser, de ne pas... Hein? Ça me rappelle un petit peu quelques anecdotes. Quand j'étais à la fac de Vaux-sur-Seine, j'ai rencontré beaucoup de profs formidables. Ils étaient vraiment des gens super intello. Et puis, des renommées mondiales. Ils ont écrit tellement de livres. Ils sont, comme M. Blocher, qui est aussi prof aux États-Unis, qui est souvent en voyage pour apporter des conférences dans le monde entier. Mais lui... Il est tellement humble. J'ai jamais vu un homme aussi humble. Je vous avais déjà raconté une histoire. Hein, à la table, on mangeait, etc. Et puis une fourchette qui tombe d'un étudiant. Hop, c'est lui qui ramasse. Et par exemple, si c'est moi qui faisais tomber la fourchette, il ramassait. Et puis, non seulement il ramasse, mais il va se lever pour aller chercher une nouvelle fourchette. Hein? C'est juste une petite anecdote, c'est pas juste ça. Ça montre toute sa vie combien il est humble. Et même en classe, quand les gens posaient des questions un peu idiotes, vous savez, quand je vois, tout le monde n'est pas né théologien, et que en classe, je voyais des gens qui posaient des questions vraiment... Je vais peser mes mots pour dire que, mais il était respectueux, vraiment respectueux, et il essayait de comprendre ce qu'il voulait savoir, et puis il répondait mais de manière formidable pour nous transmettre aussi d'autres informations. En tout cas, il nous considérait, nous les étudiants, qui n'avaient pas un grand savoir, il nous considérait avec beaucoup de soin, mais aussi même peut-être au-dessus de lui-même. En tout cas, à travers tous ces exemples des personnages ou encore en creusant un peu la question sur notre identité même, oui, devant Dieu, nous ne sommes rien. Et que nous pouvons, l'autre qui est devant moi, est aussi important devant Dieu. Ça, c'est une première piste pour peut-être considérer mon prochain comme mon égal. Mais la Bible, dans Philippiens 2, il va nous pousser encore davantage pour que nous puissions considérer l'autre comme au-dessus de nous-mêmes. Et là, il donne l'exemple du Christ. L'exemple. Ce chapitre 2, je l'avais déjà utilisé à un moment donné où il y avait des conflits. C'est-à-dire, vous savez, dans l'ancienne église, pas dans cette église-là, mais dans l'ancienne église, quand j'étais en Alsace, à Fastat, chaque samedi soir, on avait un groupe de jeunes, adultes. On était à peu près 25, voire maximum 30 jeunes chaque samedi. On était vraiment un très bon groupe. Et chaque été aussi, je les emmenais à faire des voyages missionnaires. Et vous savez que être copain dans la semaine, c'est super. On se voit un petit instant, le samedi soir ou le dimanche matin, on dit bonjour, on raconte nos histoires, etc. C'est super sympa, hein. C'est un gars super gentil aussi. Mais vivre 24 heures sur 24, pendant une semaine, même, non, c'était pas une semaine. Parfois c'était deux semaines, parfois c'était trois semaines. Trois semaines de voyage missionnaire. Et découvrir que l'autre n'est pas si gentil que ça, hein, et qu'il a une certaine habitude un peu bizarre, et que parfois il joue perso, il n'aime pas très dans la vie communautaire, etc. Et puis il y a eu, bien sûr, des conflits. Et donc, on était là pour évangéliser, on était là pour les enfants, pour prendre soin des enfants, même faire de l'évangélisation dans la rue, faire des mimes, des chants, etc. On avait invité aussi plein de personnes pour le concert du soir, etc. Mais entre nous, ça n'allait pas. Alors, chaque matin et chaque soir, on avait des temps de méditation. Alors, un matin, j'ai dû lire dans Philippiens 2, alors en disant que ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà, on était trop, à ce moment-là, on était trop personnel, égoïste. Chacun était le centre du monde. Et j'ai continué la lecture. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Très important d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Jésus était exactement au même niveau que Dieu le Père, mais il n'a pas donné trop d'importance. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant soin, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, lui qui recevait chaque instant de la louange par tous ces myriades des anges du monde, lui, il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une forme de serviteur, mais il est venu aussi dans un endroit le plus humble. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il était venu, effectivement, pour mourir à la croix. Pourquoi ? Tout ça pour des gens minables, pécheurs, qui s'étaient désobéissants. Et il lui a donné le nom qui était même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, c'est une super cantique de Paul. Je dirais même, on dirait une poésie qui nous appelle à ressembler le Christ, qui s'est humilié, qui s'est dépouillé lui-même pour devenir semblable à un homme, et jusqu'à subir, enfin, il est venu en tant que serviteur, il a pris cette forme d'esclave pour porter cette croix jusqu'à la mort, cette mort horrible et honteuse qui était réservée aux pires criminels. Mais c'était la seule solution alors. Pour l'immensité du mal du péché, il fallait aussi une immensité d'amour d'un homme parfait pour expier, pour effacer, pour pardonner nos péchés. Pourquoi a-t-il subi cela? Pourquoi il a été ainsi utilisé? Tout simplement pour nous sauver. Et il a été au bout de sa tâche. Et ensuite, bien sûr, on voit bien par la suite, par le verset suivant, verset 9, il a été honoré, oui, il a été honoré, élevé même. Et Dieu l'a souverainement élevé, effectivement. L'humilité n'est pas se transformer en paillasson et accepter le prix, etc., etc. Mais un jour, oui, nous serons aussi accueillis pour ce que nous avons été et ce que nous avons fait. Qu'un jour, que nous puissions aussi vraiment recevoir cette parole de la part de Dieu qui dit « Bon, entre dans la joie du Seigneur, bon et fidèle serviteur. » Que nous puissions être vraiment dans la fidélité de Dieu, dans la fidélité, comme Jésus a été, et que, voilà, nous avons commencé la rentrée, vous avez peut-être des nouveaux amis avec qui vous devez nouer des relations, et réfléchissez un peu quand vous faites des nouveaux amis, comment je dois me comporter, comment je dois les regarder, comment je dois les considérer, comment je dois les respecter, respecter. Et à travers, déjà, rien qu'avec ce genre de témoignage, je pense que, voilà, ils peuvent sentir, même sentir cette odeur, ce parfum de bonne odeur que nous dégageons, que nous dégageons. C'est vrai, considérer les autres au-dessus de nous-mêmes, c'est une affirmation bien étonnante qui paraît très utopique, voire risquée dans le monde où nous vivons, mais à y regarder en regardant de plus près, ce n'est pas si déraisonnable que ça. De plus, quand on se rend compte que cette sorte de définition de l'humilité, parce que regarder les autres au-dessus de nous-mêmes, c'est la définition de l'humilité, a été au centre de l'œuvre de Christ ici-bas. Alors oui, nous devons fixer nos regards vers notre Seigneur Jésus-Christ qui a été fidèle jusqu'au bout et que nous puissions vraiment repenser à tout ça pour être des vrais témoins, pour être des vrais sels, le vrai sel et la lumière du monde, pour que, voilà, à travers notre vie, que les gens soient touchés. Je ne parle pas forcément les gens du monde, mais aussi dans la famille. Il peut y avoir des conflits relationnels dans la famille, il peut y avoir des relations rompues avec des amis proches, que nous puissions vraiment réfléchir tout cela. Et que, oui, je disais que j'ai commencé l'introduction en disant que oui, il n'y a pas de séparation entre vie spirituelle et vie séculière. Tout est spirituel. Que nous puissions vraiment nous remémorer cela pour être des vrais disciples du Seigneur. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, oui, aide-nous vraiment à dégager cette parfum de bonne odeur en transmettant la vérité, en étant peut-être à fond pour le travail, en étant fidèle au travail comme pour le Seigneur, en étant dans la vérité, en considérant les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Parce que Jésus-Christ, toi, tu l'as montré. Alors que tu méritais tellement de gloire et de louange, tu as tout laissé derrière toi pour que nous puissions avoir cette vie éternelle. Et pour cela, tu n'as pas hésité, Seigneur, à franchir toutes ces épreuves sur la terre. Seigneur, aide-nous en tout cas à nous remémorer tout ce que tu as pu accomplir sur la terre. Et mettre en pratique. C'est vrai qu'il est facile de savoir, lorsque nous avons une certaine année de vie de chrétien, nous savons que nous devons être des vrais témoins. Nous savons que nous devons être lumière et sel dans ce monde. Mais la connaissance et la pratiquer, mettre en action tout ce que nous savons, ce sont deux choses différentes. Et j'aimerais vraiment te prier ce matin pour que tu nous accordes cette miséricorde, cette grâce que tu as accordée à Paul, pour que nous puissions aussi aller de l'avant. Pour que tu puisses demeurer pleinement en nous pour avancer, pour avoir une bonne relation avec les autres, pour l'amour du prochain. Seigneur, par notre propre force, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Mais avec toi, avec la puissance de l'Esprit de Dieu, nous pouvons être des vrais témoins. Sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen.